Et on parle maintenant avec Catherine Godet, qui est chorégraphe, récipiendaire du Grand Prix de la danse de Montréal en 2022 pour son spectacle Les Jolies Choses, qui sera présenté du 1er au 3 mars à l'Agora de la danse après avoir été un succès au FTA. Bonjour Catherine Godet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. D'abord, le titre est tout à fait charmant, Les Jolies Choses. Pourquoi ce titre, Catherine?
C'est une bonne question. Je pense que c'est un titre qui ne reflète pas du tout l'atmosphère de la pièce. Pas que la pièce soit des choses affreuses, pas du tout. Mais on avait envie, les interprètes et moi, de trouver un titre qui soit le plus naïf possible, je dirais. Et c'est un peu comme ça que le spectacle débute, de manière assez inoffensive, naïve, pour gagner de plus en plus en intensité et en charge physique, entre autres. Et c'est une lente montée crescendo, en fait, ce spectacle-là, qui devient, au final, très, très intense. Donc,
est-ce qu'il y a une narration? Est-ce qu'il y a une histoire derrière les mouvements?
Alors non, c'est pas du tout littéral comme spectacle. Je suis vraiment entrée dans une abstraction totale au départ de ce processus-là. Je voulais même que ce soit mon spectacle le plus minimaliste à vie. Bon, j'y suis pas du tout parvenue. Finalement, ça a bifurqué complètement vers l'autre extrême, j'ai l'impression. Mais je suis quand même demeurée dans l'abstraction. Par contre, il y a des thématiques quand même qui ressortent de ce spectacle-là. Avec les danseurs et danseuses, on se plaît souvent à dire que c'est un spectacle, c'est une grosse machine, en fait, dans laquelle sont pris et soumis les interprètes, en même temps que ce sont eux qui font fonctionner cette machine-là. Donc, ils sont à la fois... roi et bourreau d'eux-mêmes.
Ah oui.
Donc, c'est sur cette espèce de ligne contradictoire qu'on a construit la pièce. Et c'est ça. Il y a une certaine... C'est une pièce extrêmement exigeante pour les danseurs.
Ils sont cinq danseurs?
Ils sont cinq, danseurs et danseuses qui dans cette pièce-là. Et c'est ça, c'est une pièce qui est très, très exigeante pour eux, mais au final, le défi, c'est d'atteindre un peu le second souffle. Donc, de cette exigence-là résulte une forme d'extase,
oh, wow.
Si on veut.
Et
c'est ce qu'on se plaît à dire, en tout cas. On n'y arrive peut-être pas tous les soirs, mais c'est ce qu'on vit.
L'extase que vous faites vivre aussi à votre public?
Ah ben ça, c'est pas de mon ressort, mais je pense que la réaction, en tout cas, au dernier FTA était quand même assez bonne. Puis je pense que ce qui se développe, la raison pour ça, c'est que ce qui se développe quand on est témoin de cette pièce-là, c'est vraiment une grande empathie pour les interprètes. C'est un peu, pour moi, comme si j'assistais à presque une performance sportive, un match de foot ou quelque chose comme ça. Et je sais que leur tâche est extrêmement exigeante, voire quasi impossible. Et je veux à tout prix qu'ils réussissent. Je me prends au jeu de les soutenir, d'être complètement solidaire avec eux.
Donc, alors, ils doivent être préparés physiquement, psychologiquement, ces cinq interprètes. J'ai lu qu'ils devenaient aussi des instrumentistes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Oh, je ne sais pas où vous avez lu ça.
Dans le dossier de presse.
Ah, voilà. C'est que ils partent de quatre mouvements qu'on appelle notre vocabulaire de la pièce. C'est quatre mouvements très, très simples sur lesquels se développe toute la gestuelle de la pièce. Donc, ces quatre mouvements très, très simples vont gagner en complexité au fur et à mesure de l'avancée de la pièce. Et comme je disais tout à l'heure, la partition qu'ils doivent livrer est de plus en plus exigeante. Donc, ces quatre notes, ces quatre mots de vocabulaire deviennent vraiment quasi symphoniques dans leur partition.
Ah oui, d'où le mot instrumentiste, peut-être.
Oui, virtuose, si on veut, oui. De leur propre corps.
Ça doit demander
corps.
Une concentration de fou.
C'est assez, oui, c'est assez impressionnant comme niveau de concentration que ça leur demande. C'est-à-dire que c'est pas seulement leur les mouvements en tant que tels, mais c'est qu'ils doivent conserver une partition de groupe extrêmement contraignante.
C'est synchronisé? Ils sont tous synchronisés?
Ils sont tous synchronisés et il est impossible de déroger de cette partition-là sans que tout s'écroule.
Ah oui.
Donc, leur responsabilité est extrêmement grande à chacun et la solidarité qu'ils doivent injecter dans leur performance est aussi extrêmement grande. Donc, je crois que c'est ce qui participe aussi à l'effet un peu sportif, si on veut.
Et pourquoi le choix d'une camisole, une pièce comme costume?
Eh bien, en fait, ça fait partie, c'est un peu en lien avec le titre « Les jolies choses ». C'est-à-dire qu'on avait envie de donner au départ une impression un peu faussée de ce qu'allait être la pièce. Un peu pour tendre un piège, si on veut, au spectateur. Et pour nous, c'est un clin d'œil à une espèce de cliché de danse contemporaine. L'unitard très sage du danseur, très joli, justement. Tout est parfait, tout est léché, tout est exécuté d'une manière sobre et
mais il ne faut pas se fier aux apparences.
Mais effectivement, c'est ce qui arrive au fur et à mesure de la pièce.
Et est-ce qu'il y a une musique qui accompagne le spectacle « Les jolies choses » Une jolie musique?
Il y a une très jolie musique qui est composée par Antoine Bertillon. Tient en laisse presque les danseurs, c'est-à-dire que c'est une musique qui est très rythmée, qui est très répétitive, qui soutient justement cette partition qui est elle-même à la fois répétitive et complètement variée, qui devient à la fois très très hypnotisante et très enlevante pour culminer à la fin dans un revirement assez spectaculaire que je ne révélerai pas.
D'où vous est venue l'inspiration pour Les Jolies Choses, Catherine Godet?
C'est drôle, on me pose souvent cette question-là, puis j'arrive pas à répondre exactement. L'inspiration me vient des discussions souvent que j'ai avec les interprètes. Quand j'entre en studio, j'essaie de déblayer vraiment le terrain pour qu'on plonge chacun et chacune dans l'aspect plus inconscient de nous-mêmes pour laisser apparaître ce qui est déjà là, pour découvrir un peu ce qui est déjà là comme énergie commune. Et on commence à créer de cette manière-là. Pour Les jolies choses, quand on est entré en studio, c'était au retour du premier confinement. Et c'était, oui, très très joyeux comme retour en studio. Puis on était vraiment dans la préciosité de notre travail. Puis de là, nous est venue l'envie de faire quelque chose de très, très minimaliste, très, très épuré. Puis j'ai l'impression que la suite des événements, en tout cas, des années subséquentes qui ont suivi ce premier confinement ont été quand même très difficiles puis ont pesé beaucoup sur pas sur le moral des troupes mais sur un sentiment de contrainte en fait qu'on avait intériorisé et je pense que c'est ce qui se reflète aussi dans la pièce comme la contrainte de plus en plus grande et le désir malgré tout, de ne pas en être victime et d'en faire quelque chose. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on peut lire à travers la pièce aussi.
Je me demandais pourquoi vous avez créé votre propre compagnie de danse. Ça s'est passé en août 2019, si mon information
oui.
est bonne.
Oui, c'est tout à fait juste. Moi, j'étais depuis 9 ans au cœur d'un organisme à plusieurs têtes, à plusieurs chorégraphes qui s'appelait l'Organisme, que j'avais cofondé avec 4 autres chorégraphes et amis. Et j'ai évolué là-dedans de manière très très heureuse pendant toutes ces années-là, jusqu'à ce que à un moment, j'ai eu envie de simplement voler de mes propres ailes. C'est-à-dire que la structure qu'on avait partagé à 4 personnes me permettait pas de d'atteindre les aspirations qui peu à peu se présentaient à moi. C'est
pourquoi?
Comme si...
Parce que vous faisiez trop de compromis?
Ben non, c'est pas par rapport à la vision des autres. C'est vraiment pour des raisons purement techniques et financières. C'est-à-dire que quand on a un organisme partagé, la manière de, on va dire, de partager le financement est différente que lorsqu'on est à la tête de sa propre compagnie et que le financement est dirigé seulement sur les projets d'une seule vision artistique. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là, pour, ouais, peut-être continuer à me développer tout simplement dans la direction où je voulais aller.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une troupe permanente dans votre compagnie, une troupe de danseurs, interprètes?
Non, pas officiellement, mais je dois dire que je suis quand même assez fidèle dans mes associations, puis les interprètes avec qui je travaille pour la plupart avec eux depuis de très nombreuses années. Mais c'est pas une troupe officielle, c'est-à-dire que c'est quand même des travailleurs autonomes, chacun comme la plupart des interprètes à Montréal. Voilà.
Pour vous, Catherine, vous avez fait plusieurs études, là, un baccalauréat, une maîtrise au département de danse de l'UQAM. Vous avez signé votre première chorégraphie il y a presque 20 ans, en 2004, et vous avez signé plusieurs chorégraphies. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chorégraphe plutôt que danseuse-interprète?
Bien, alors moi, au départ, je voulais devenir interprète. C'est là-dedans que j'ai fait mes études. Et j'ai travaillé comme interprète quand je suis sortie de mon bac. Puis assez rapidement, je me suis pas sentie 100% à ma place comme interprète. C'est-à-dire que je sentais toujours que j'avais un regard trop critique sur les choix artistiques qui étaient faits.
Ah bon?
Puis ça, j'avais l'impression que ça m'empêchait d'embrasser complètement le projet. Puis quand je regardais d'autres interprètes autour de moi, je sentais pas cette petite résistance. Mm-hmm.
Donc il y avait une difficulté d'abandon parce que vous étiez toujours dans le regard critique ou vous vous posez des questions. Oui, c'est ça.
Oui. Puis je me disais toujours, ah, moi j'aurais pas fait ce choix-là, ah, mm-hmm. moi j'aurais fait autrement. Puis à un moment donné, j'en ai eu assez de cette petite voix à l'intérieur de moi, puis je me suis dit, ben Catherine, si tu penses que toi t'aurais fait les bons choix, mets-toi à l'épreuve, c'est-à-dire... Essaie-le, va en studio, puis vois si t'es capable de faire quelque chose. Puis ça a été quand même... assez évident pour moi, c'est-à-dire que je me suis sentie vraiment plus à ma place dans cette posture-là de chorégraphe. Aussi parce que la scène, c'est quand même, pour moi, c'est une vocation, c'est quelque chose de très difficile, la scène, c'est très stressant.
Surtout puis, quand on joue dans Les Jolies Choses,
oui,
quand on danse dans Les Jolies Choses.
J'aime pas trop me projeter dans leur situation parce que, oh là là, je supporterais pas ce stress-là. Mais oui, je suis plus à l'aise avec... c'est une autre forme de stress,
oui,
mais je suis plus à l'aise avec ce trac-là du chorégraphe.
Vous l'avez jamais regretté là, quand vous avez décidé de l'essayer, là, le métier
non.
de chorégraphe, non? Est-ce que c'est comparable à le métier de chorégraphe à celui d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène ou d'un réalisateur, réalisatrice au cinéma?
Mm-hmm.
Ouais.
Il faudrait que je pratique ces métiers pour pouvoir vous répondre, mais je pense que la grande différence, c'est que la plupart, en tout cas, des metteurs en scène ou des réalisateurs vont travailler avec un script ou un texte qu'ils ont choisi ou qui aurait été écrit au préalable, puis ils vont créer l'œuvre à partir de ça. Tandis que, puis je dis pas que tous les chorégraphes fonctionnent comme ça, peut-être que pour certains...
Tous les chorégraphes ou tous les metteurs en scène ou réalisateurs?
Non, je veux dire les chorégraphes peut-être.
Ah,
peut-être
d'accord.
C'est les chorégraphes qui fonctionnent avec un projet très, très écrit à la base.
Un canevas, un plan.
Un canevas, mais moi, je ne fonctionne jamais, jamais comme ça.
Non.
Je suis pas capable de fonctionner comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est là la grande différence.
Oui,
c'est
oui.
Peut-être. Puis là, c'est peut-être erroné, là, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les mots amènent aussi quelque chose de, mais forcément quelque chose d'un peu plus littéral, alors que moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'abstraction.
Pourquoi?
Parce que je suis très mal à l'aise avec l'idée de livrer un message. J'aime partir d'une idée et j'aime réfléchir à partir de cette idée-là, mais j'aime pas tenter de livrer cette idée-là très concrètement. J'aime me laisser porter par toutes les nuances, toutes les contradictions, la multitude d'états que peut porter cette idée-là, puis au final, ça peut donner quelque chose de complètement éloigné de l'idée de départ. Puis j'aime, moi, penser que je plonge dans des zones plus inconscientes de moi-même. Puis ça, c'est vraiment des impressions. J'ai l'impression que si j'étais metteuse en scène, il faudrait que je travaille de manière beaucoup plus consciente et intellectualisée. Puis ouais, c'est juste moins dans ma nature, en fait.
Et en terminant, il reste quelques secondes, Catherine Godet, pour vous, un bon spectacle de danse, c'est quoi? Il n'y a pas de message, en tout cas.
Pas nécessairement. Je ne sais pas. Un bon spectacle de danse, pour moi, c'est un spectacle où chaque personne sur scène, chaque artiste sur scène est complètement engagé. Puis parfois, l'esthétique peut ne pas me plaire, mais je vais vraiment résonner en fait à cet engagement-là, puis à cette énergie-là qui se dégage. Donc ça peut être tellement varié. J'ai des goûts quand même très, très variés.
Alors, ça a été un plaisir de parler avec vous, Catherine Godet. On ira découvrir votre spectacle de danse, si ce n'est déjà fait. Les Jolies Choses, du 1er au 3 mars à l'Agora de la danse qui est située au 1435 rue Bleury, rue de Bleury. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir, merci beaucoup.
Le mot de Cambronne pour la série de spectacles et la suite.
D'accord.
Au plaisir.
Au revoir.